Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. L'histoire ne dit jamais rien, et quand elle ne se contredit pas, elle ne se nourrit que d'événements fortuits. Du jour au lendemain avec Jérôme Peignot, qui publie Un printemps à Pékin chez Kalman Levy dans la Bibliothèque européenne de Marensel. On va citer Jérôme Peignot quelques livres récents pour témoigner une fois de plus de la diversité de vos centres d'intérêt, de vos approches. Puzzle, bon, ça c'était en 86 à l'âge d'homme.
C'est ça.
C'était quoi ça? C'était
Puzzle, c'est un puzzle. C'est-à-dire un ouvrage qui n'est ni un journal intime, enfin surtout pas intime, ni un roman, mais c'est un puzzle. Alors voilà, avec ce titre. Au fond, j'ai conçu un ouvrage que je dois réussir, puisque ce sont des fragments. Roland Barthes a théorisé le fragment. Il nous dit dans SZ ou dans le Barthes par lui-même que le fragment est un genre littéraire. Eh bien, alors, j'ai conçu un ouvrage de fragments, mais dès lors que je l'appelle puzzle, il faut que je le réussisse à un morceau près. Un morceau de trop. J'ai raté mon coup, et s'il en manque un également. Alors, je prétends avoir fait le livre qui est le plus près de son titre de tous ceux qui ont jamais été imaginés. Alors, est-ce que j'ai réussi, c'est pas à moi de le dire. Mais en fait, c'est d'une certaine façon tout de même un roman, disons le roman d'un esprit, parce que précisément, compte tenu de ce que je viens de vous dire, comment je m'en tire, comment j'arrive à mettre le dernier morceau. Alors, il y a un suspense là. Voilà, mais je travaille au deuxième volume et il y en aura sans doute un troisième.
Alors le même Jérôme Peignot qui publie cette sorte de roman intitulé Puzzle publie en 88 Pierre Leroux, inventeur du socialisme chez Klinsic. Il faudrait bien en inventer un aujourd'hui, un Pierre Leroux.
Eh bien, c'est gentil de faire allusion à ce livre. Ce livre, je l'ai dédié au président Mitterrand. Et j'ai mis comme dédicace au président Mitterrand, à qui l'on doit l'expression du socialisme la plus poétique en même temps que la plus réaliste. Je maintiens ma formule. Qui est Pierre Leroux? On le connaît mal, très peu. Il y a pourtant une rue à Paris, dans le 7e arrondissement, du côté de la rue de Sèvres, qui s'appelle la rue Pierre Leroux. Pierre Leroux a inventé le mot socialisme, par opposition au mot individualiste. Et il a quitté au moment de 70, il a quitté sous le Second Empire, et il est allé à Jersey, il a quitté la France, et il était le compagnon, l'ami, enfin le voisin, disons, plutôt, de Victor Hugo à Jersey. Il était l'ami de Georges Sand, il a créé un phalanstère à Boussac, et il a une œuvre gigantesque, en particulier un ouvrage qui s'appelle De l'humanité, que Michel Serres a reproduit récemment, il y a quelques années, dans son corpus philosophique. C'est un très, 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 très grand penseur. Alors, c'est un penseur, et en même temps, c'est un homme qui a une foi profonde, et il dit, en gros, que le socialisme et le christianisme se repèrent, sont la même chose. Le Christ sans culotte, c'était une idée qui a couru tout le 19e siècle. C'est un très grand homme, un très grand homme. Et c'est à la suite d'une série d'émissions que j'avais fait dans cette maison, il y a longtemps, qu'un éditeur m'a demandé de faire ce travail. Voilà ce que je peux vous en dire. Je pense que son message est toujours valable et que rien n'a changé. J'ai publié ce livre en 1988 et je m'en suis excusé auprès du président avec un septennat de retard, car au fond, c'était ma contribution à l'élection du président Mitterrand.
Je vais citer un autre titre pour prendre de la hauteur. C'est un livre que vous avez publié la même année chez Azan, Affiche poster d'Air France 1933-1983.
Oh, c'est une drôle d'histoire. La compagnie Air France cherchait à lancer une nouvelle campagne d'affiches. Or, cette campagne d'affiches, ils ne savaient pas très bien quoi faire figurer sur ces affiches, puisque toutes les compagnies maintenant utilisent le même avion, alors on ne peut pas vanter les mérites d'un appareil, puisqu'on le retrouve sur toutes les lignes de toutes les compagnies. Alors, ils avaient pensé mettre l'accent sur la culture. Alors, comment faire pour, témoigner de la culture par une affiche? Alors, ils s'étaient adressés à moi, parce qu'ils savaient que le sujet de l'écriture était mon violon d'ingres, et j'ai conçu une série d'affiches sur le thème de l'écriture. Alors voilà, cette affaire est en train, il y a des problèmes de droit, enfin, ça verra peut-être le jour l'année prochaine, peut-être.
On va citer un dernier livre, Jérôme Peignot, qui n'est pas encore sorti.
Alors, non, pardonnez-moi, je vous interromps, le livre d'Azan était une espèce d'anthologie des affiches de la compagnie dans laquelle devait figurer cette nouvelle série que j'avais conçue. Mais le livre est sorti sans cette nouvelle série. Mais il s'agit, depuis 1933, date à laquelle a été créée la compagnie en France, d'une série des affiches. Et il y a là des Savignac, des Villemot, de très belles, des Cassandres, de très beaux, très très belles affiches.
Les plus grands. Alors, ce dernier livre que je voulais citer ce soir, c'est un livre qui va paraître cette année à l'Imprimerie Nationale, sous le titre Typoésie.
Alors, Typoésie, au fond, ce mot est un peu le résumé, au fond, de toute une réflexion. On a notre père à tous, Lacan nous a parlé beaucoup du signifiant et du signifié, mais il a oublié le signe. Or, au fond, mon idée, toute bête finalement, c'est que le signe est indissociable du signifiant et du signifié. Et j'ai voulu, par mes travaux sur l'écriture, l'ouvrage que j'ai publié sur la calligraphie, ou mon livre sur le calligramme, ou bien celui-ci, témoigner au fond de la revendication du signe à part entière, au même plan que le signifiant et le signifié. Alors, il s'agit au fond d'une espèce d'anthologie de la poésie visuelle qu'on le connaît mal en France, mouvement poétique qui est né en Allemagne dans les années 55-60, puis ensuite au Brésil, en Italie, mais qui n'est pas connu, mal connu, très mal connu en France. Alors, voilà, j'invente un mot, le mot « typoésie », qui est le mot « valise », dirait Joyce. La contraction entre typographie et poésie. Je pense que la poésie et la typographie ont quelque chose à voir ensemble. Mallarmé avait conçu son fameux coup de dé avec des caractères dido. Toutes les lois qui président à l'élaboration du coup de dé sont des lois typographiques, on ne le sait pas, mais fondées sur le 12, unité typographique. Alors, ce typoésie réunit des poèmes visuels du monde entier.
Ça va être gros, alors.
C'est un gros volume de 460 pages. J'ai eu la chance de le voir imprimé à l'Imprimerie Nationale. Oh, je me souviens à ce propos, je l'avais proposé à plusieurs éditeurs, en particulier un éditeur. Oh, ben, je vais donner son nom, c'était les éditions Nathan. Et les éditions Nathan, parce qu'on ne sait pas ça. Vous savez, on dit en France commettre un livre un peu comme on dirait commettre un crime. Alors Nathan m'a répondu, oh, c'est magnifique ce livre, ou Gallimard, mais ça sort vraiment trop de l'ordinaire. Alors j'ai répondu avec ma belle plume, heureusement que vous ne m'avez pas publié, parce que je me serais retrouvé dans vos publications ordinaires. Heureusement, l'Imprimerie Nationale, elle, n'a pas estimé que c'était ordinaire. et justement que ça sortait de l'ordinaire, et je crois que ça va être un, enfin une belle, très bel ouvrage.
Oui, annoncé donc à paraître pour 1993.
En septembre prochain.
Et je vous avais dit, Jérôme Peignot, que nous allions terminer l'émission en évoquant ce livre, Antipoésie. Donc nous venons d'en parler, donc l'émission est terminée. Je vous remercie, bonsoir. Alors soyons sérieux quand même, Jérôme Peignot, si vous êtes venu nous rendre visite ce soir, c'est pour parler d'un livre qui vient de paraître chez Kalman Levy et Marine Sell, Un printemps à Pékin, sous-titré Où le triangle botanique, récit, un récit que vous avez dédié à tous ceux de Tiananmen.
Bien. Alors, peut-être, je pense que c'est la meilleure manière d'entrer en matière, c'est d'évoquer le sous-titre. En vérité, mon roman s'appelle « Le triangle botanique », mais pour des raisons, donc, de... comment dire... de vente, l'éditeur a préféré « Le printemps à Pékin ». Alors, qu'est-ce que c'est que « Le triangle botanique » ?
C'est un beau titre, « Le printemps à Pékin ».
C'est un très beau titre, oui. Je l'avais d'ailleurs mis en sous-titre. Enfin, on a changé l'ordre. Qu'est-ce que c'est que... De quoi s'agit-il? Dans le palais impérial à Pékin, dans le jardin arrière du palais impérial à Pékin, se trouve un lieu, toujours aujourd'hui, réservé aux philosophes taoïstes. Les philosophes taoïstes sont en même temps des jardiniers. Mais ce sont des gens qui pensent que la nature fait l'art. Mais que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Sinon, peut-être, mettre un peu d'ordre, car si on laisse faire la nature, elle ira en tous sens. Alors, une des choses à quoi il s'essaye, c'est à l'art des boutures. Alors, il faut, par exemple, et c'est le cas pour mon triangle botanique, il prenne deux surgeons d'un arbre qui ressemble un peu à notre, disons, pin. Et puis, ces deux surgeons, parallèles l'un à l'autre, il les accole de manière à former avec le sol un triangle. Après quoi, il laisse la nature opérer. Et un arbre pousse. Cet arbre s'appelle, et je l'ai découvert après coup, c'est extraordinaire ce qui m'est arrivé, cet arbre, un arbre en chinois, ça s'appelle Mu, M-U. Et c'est justement le nom de mon héroïne. Cet arbre est le symbole de l'amour en Chine. Le symbole de l'amour en Chine. Alors, voilà pour le titre. Alors, maintenant, entrons dans le sujet. Entrons dans le sujet.
Et dans la dédicace.
Bon, comme tout le monde, là encore, je suis un peu en retard. J'étais en retard avec mon Leroux, je suis aussi en retard avec mon printemps à Pékin, parce que depuis, il y a la Serbie, il y a la Somalie, il y a l'Union soviétique qui se déchire, et peut-être aussi bien d'autres lieux auxquels nous ne finirions pas de dresser la liste. Bien, alors, comme tout le monde, j'ai été bouleversé par ce qui s'est passé en 1989 sur la place Tiananmen. Et en particulier par cet homme qui s'est planté devant ce char. Eh bien, cet homme qui s'est planté devant ce char, qui s'appelle Yann, est le héros de mon roman. Alors, la première chose qui m'a frappé, c'est ceci, n'est-ce pas ? J'ai donc conçu un récit à partir des événements véridiques sur lesquels j'ai bâti un roman. Bien, là où... C'est déjà signifiant, enfin, pour moi. Je veux dire par là que les événements politiques ne sont pas vécues comme ça dans un coin de notre vie, puis d'autre part, notre vie affective, amoureuse, que tout ça forme un tout absolument indissociable. C'est déjà ce que disait ma fameuse tante Laure, la compagne de Georges Bataille. Il n'y a pas d'un côté l'engagement politique, et puis d'autre côté l'engagement affectif. La révolution, l'amour et la poésie forment aussi un triangle. Aux pôles indissociables les uns des autres. Bien. Alors, au fond, voilà, j'ai voulu décrire ce qui se passait là, et j'ai voulu que le lien amoureux qui lie ces trois personnages soit lié en même temps à la révolution et aux événements abominables qui se sont passés là. Alors voilà, des étudiants de l'université de Bidaï décident de s'ériger contre le pouvoir communiste. Je ne vais pas refaire l'histoire ici de tous ces événements qui sont connus, mais un des héros qui s'appelle Li est un jeune étudiant qui est amoureux de cette jeune femme qui s'appelle Mu, donc, et qui est en vérité dans mon esprit Shailin. Shailin, c'est cette jeune femme qui est une des passionnariats du mouvement de 89. Il était un étudiant, mais elle n'est pas éprise de lui. C'est un homme sarcastique, très intelligent, et qui n'ose pas avouer son amour. Et qui est engagé très, 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 très fortement dans le combat politique et qui va finir très, assez rapidement par s'engager dans une grève de la faim et mourir sur la place Tiananmen. Reste Yan. Yan, lui aussi, était pris de Mu. Mais ce n'est pas un étudiant. Et en Chine, c'est très important de ne pas être un étudiant par rapport à des étudiants, parce qu'il y a un clivage là, très important. C'est un employé, un homme qui travaille dans l'administration de la faculté, et qui, tout d'un coup, s'aperçoit que, au fond, que son rival soit mort, le met dans une situation encore plus, encore plus dérisoire par rapport à cette femme qu'il aime. Alors, il décide à la faveur de ces événements, à la fois de mourir pour elle et à la fois de mourir pour la cause de cette révolution et de reconstituer après la mort le triangle botanique. Parce que il faut savoir, je le décris. Il faut savoir que les Chinois vivent, la transcendance, une survie après la mort, de façon tout à fait, triviale, sans conférer à cette transcendance une dimension religieuse ou métaphysique. Voilà, par exemple, les corps des gens qui avaient été tués à la faveur de ces événements, quand ils étaient pris par la soldatesque de Li Peng, étaient coupés en morceaux de telle sorte que ils ne se reconstituent pas dans l'au-delà. C'est précisément pour reconstituer dans l'au-delà, après la mort, le fameux triangle botanique que Yan fait le sacrifice de sa vie. Parce que, en fin de compte, la jeune femme, qui est une archéologue, va s'échapper, et c'était, enfin, s'échapper avec l'autorisation du pouvoir, car c'était une des volontés de Deng Xiaoping, paradoxalement, c'était d'envoyer l'élite intellectuelle et, chinoise à l'étranger pour y recevoir une formation. Et cette jeune femme avait reçu l'autorisation tout à fait légale d'aller en France poursuivre ses études d'archéologie. Et elle va finir, grâce à Yann qui arrive à la transporter sur son vélo jusqu'à l'aéroport, elle va finir par s'échapper. Voilà en gros, disons, la trame.
Le scénario
de ce roman.
Mais pour revenir au triangle, c'est un triangle qui parle. Un triangle qui parle de la mort et peut-être de la vie qu'il y a après la mort.
C'est ça. Voyez-vous, en fait, ce roman est une énorme métaphore. Je pense que nous avons tous dans nos vies un char à affronter. Monsieur Bérégovois vient d'affronter son char. Mais ce char se présente à nous de loin en loin. Alors, de deux choses l'une. Ou bien nous faisons face à ce char, ou bien on se met de côté. C'est cela que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que non seulement j'ai voulu bien sûr rendre hommage à ce qui s'est passé sur la place Tiananmen, mais j'ai voulu aussi nous expliquer que cette affaire de char, cette affaire de confrontation avec la mort, se produit dans nos vies, ici même en Occident, et continuellement.
Ce que vous nous dites, Jérôme Peignot, c'est que la vie qu'il y a peut-être après la mort dépend de la raison pour laquelle on meurt.
Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous donner encore un exemple. J'avais un frère que j'aimais beaucoup. Il est mort d'un cancer il y a 2-3 ans. Je l'ai accompagné jusqu'à ses derniers moments. Et à l'hôpital Laennec, il a envoyé ses grands membres à travers son lit. Et pendant ces dernières semaines, je me suis vraiment rapproché de lui beaucoup. Et j'ai eu l'impression, même la conviction, qu'il ne se débattait pas, contre la mort, mais qu'il se débattait contre la vie. Et qu'au fond, son souhait, c'était qu'au fond, puisque nous nous étions retrouvés, c'était que je vienne avec lui. La mort fait partie de notre vie de façon intime. Et ça n'est pas quelque chose... si on l'affronte avec courage, ce n'est que quelque chose de naturel. Ça n'est pas Ivan Illich, le merveilleux roman de Tolstoï, La mort d'Ivan Illich, nous raconte ça aussi. Ce fameux homme auquel on vient d'apprendre qu'il va mourir dans quelques mois, eh bien, au bout du compte, il a tellement peur de cette mort qu'il finit par mourir comme un chien. Mais si on regarde la mort en face, eh bien, on la vit sereinement. N'est-ce pas? C'est bien ce que fait mon héros. Et qui, d'autant plus sereinement, qu'il est convaincu, persuadé, en bon taoïste qu'il est, que ce triangle botanique se reconstituera grâce à sa mort. Et après que cette jeune femme, Li, se sera, échappée de cet enfer.
Pour revenir à des problèmes plus terre-à-terre, Jérôme Peignot, c'est-à-dire à la littérature, vous avertissez, au début du livre, que vous l'avez conçu de telle sorte qu'il ne commence vraiment que lorsqu'on en a lu la dernière ligne. Et c'est curieux, parce que votre personnage principal, féminin, Mou, que vous avez appelé Mou, M-U,
oui, qui veut dire arbre,
mais qui peut aussi faire penser à la mue, c'est-à-dire à la métamorphose.
J'ai voulu...
Vous citiez Lacan tout à l'heure.
J'ai voulu, par cette phrase, dire que c'est précisément mentalement, une fois qu'on a lu la dernière page, que l'on reconstitue ce triangle, c'est-à-dire que on refait toute l'histoire, mais mentalement, et cette fois, on l'accomplit. L'arbre pousse dans notre corps, dans notre entendement, et en même temps, nous vivons l'amour de ces deux êtres, et par procuration le nôtre, et ensuite, nous remportons une victoire sur ces assassins.
Alors ça, vous le dites dans une note liminaire, et Mou dit à peu près la même chose, beaucoup plus loin dans le livre, page 112.
Oui.
Si j'écris un roman, dit-elle, sur ces événements, il ne sera tel qu'il ne commencera vraiment que lorsque la lecture qu'on en fera sera terminée.
Oui. Eh bien, c'est-à-dire que Mou et Yann ont finalement la même idée. Raison de plus pour que ce triangle se reconstitue. C'est précisément... Alors, je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que... Il faut savoir, c'est un élément dont nous n'avons pas encore parlé, c'est que Yann est un Ouïghour. On ne le sait pas, on s'imagine trop vite que la Chine est un énorme... une masse énorme, le quart de l'humanité, comme ça, monolithique. Mais non, il y a une série de populations comme en Union soviétique. Les Ouïghours en sont, les Turkmènes, des gens qui, au fond, n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est de subir la férule communiste. Or, Yann est un Ouïghour. Et en tant que Ouïghour, il est considéré par les Chinois, d'une façon générale, comme une portion d'être humain. Je crois avoir rapporté dans le roman que les Chinois n'ont même pas le droit de répondre à un Ouïghour qui leur adresse la parole, tellement ils le considèrent comme une portion d'être humain. Alors là aussi, j'ai voulu évoquer l'affaire des travailleurs émigrés. Quels sont les pays qui n'ont pas des travailleurs émigrés et qui n'ont pas, justement, qui ne se sont pas, comment dire, confrontés à cela? Souvenez-vous du livre de Derrida, La différence, l'acceptation de la différence. C'est pour ça que nous sommes des êtres humains. C'est parce que nous acceptons la différence. Or, nous voyons, et nous, aujourd'hui en Serbie, mais en France aussi, où la xénophobie, le racisme sont à l'œuvre, n'est-ce pas ? Là aussi, c'est une des trames de mon livre, n'est-ce pas ? C'est l'acceptation de l'autre. Alors, j'ai trouvé moyen de symboliser ça par justement ce lien amoureux très fort entre cette jeune femme qui est une Chinoise et puis ce jeune gars qui est un Ouïghour et qui défend la cause chinoise, n'est-ce pas, avec elle, contre les gens qui l'oppressent, mais en même temps, d'une certaine façon, aussi contre les étudiants qui, eux, sont les Chinois et qui continuent de concevoir, de penser qu'un Chinois, je crois qu'il faut 5 Ouïghours pour valoir un Chinois. Alors là aussi, c'est l'abolition des différences et que j'ai voulu exprimer dans ce roman.
L'amour, c'est plus fort que la révolte ?
Ah ben, l'amour, c'est pas plus fort que la révolte, c'est la même chose. Encore une fois, je reprends ma métaphore. L'amour, la révolution et la poésie, trois points, trois sommets, un triangle indissociable. Je ne peux pas croire. André Breton nous disait que la poésie c'était l'amour. Bon, on ne peut pas écrire sans amour. Rien n'est faisable sans amour et rien n'est faisable non plus sans la révolution. J'ai dans l'esprit, surtout en ce moment, cette phrase de Sartre, « Quoi qu'il arrive, conservez votre puissance de refus. » Ça, je trouve ça magnifique. « Quoi qu'il arrive, conservez votre puissance de refus. » On ne peut pas forcer un homme. à accepter l'inacceptable. Bon, alors, le racisme, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Hein? Alors, c'est pas possible. Alors, c'est justement ce dont témoigne aussi Lee à l'égard de Yann. Oui, le racisme est de tous les horizons en ce moment, enfin, ce qui se passe en Serbie le manifeste de façon scandaleuse. Mais ce que je trouve peut-être encore plus scandaleux, c'est que finalement, cette affaire se déroule sous nos yeux depuis un an, sans que finalement les pouvoirs publics, les forces de l'ONU, non. Quoi qu'il arrive, conservez votre puissance de refus. On ne le peut pas accepter ça. Et pourtant, le monde l'accepte. Alors, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Qu'est en train de devenir l'humanité? Qu'est en train de devenir l'humanité? Alors, je reviens à mon roman. Je vous disais que cette transcendance, les Chinois la vivaient de façon tout à fait triviale. Vous savez qu'il y a 5 points cardinaux en Chine. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, et puis l'étoile qui brille au-dessus de Pékin. Ça fait 5. Pour eux, la mort n'est pas une fin en soi. C'est au contraire quelque chose, qui se vit tous les jours. Je viens de lire un très 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 beau livre. C'est le livre de Stephen Hawking. Vous savez, c'est ce savant qui a écrit un livre qui s'appelle Une brève histoire du temps. Un film vient de passer sur son histoire. C'est l'homme qui a la chaire de Newton à l'université de Cambridge. C'est un très 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 grand savant. Il nous explique l'histoire du monde. Et nous voulons, avec notre petit raisonnement cartésien, nous voulons que le monde est un commencement, et puis on appelle ça le Big Bang, et puis qu'il est une fin, on appelle ça le Big Crunch. Alors Stephen Hawking nous dit, mais non, il n'y a ni commencement ni fin. Le monde respire, tout simplement. Le monde respire, il y a eu une expiration, puis il y a eu une inspiration, et puis il y aura de nouveau une expiration, et puis de nouveau une inspiration. Voilà, nous vivons. Et ce commencement et ce fin et cette fin n'existent pas. Pas plus dans l'histoire du monde que dans l'histoire de nos vies. Le triangle botanique continue de pousser. Un de mes amis, Luc Girard, est un photographe. Il m'a rapporté la photographie qui figure sur la deuxième page de mon livre. Ces arbres poussent toujours, continueront de pousser. Hein? Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Nous sommes là, vivants, et notre mémoire, notre pensée fait que rien ne meurt jamais. Sauf si on refuse son char. Et si on se débine au moment où il fallait justement rester là. Voilà mon idée, voilà ma métaphore.
Votre livre, Jérôme Peignot, Un printemps à Pékin, on apprend donc que la révolte comme l'amour rend vivant. Mais le livre est aussi une espèce de documentaire, on pourrait dire, sur la Chine.
Oui, je dis tout de suite que je ne suis pas allé en Chine. Et finalement, j'en suis venu à me dire, si j'y étais allé, sans doute je l'aurais moins bien vu. Je n'aime pas aller voir les films que l'on tire des romans. Je ne sais quoi, il y a eu plusieurs films qu'on a tirés des romans de Julien Gracq. Il y a eu un film qu'on a tiré de La Recherche du Temps Perdu. J'ai mes images, j'ai mes images. Et je les préfère. Bien. Alors, j'ai une image très précise de Pékin. Je serais capable de m'y retrouver sans carte. Mais non, je ne suis pas allé en Chine, mais j'ai une idée très précise de cette. Je vais vous dire, ce qui m'a fasciné, ce qui m'a attiré d'abord sur la Chine, au fond, c'est l'écriture. C'est le système d'écriture. Vous savez, on ne sait pas très bien, on s'imagine toujours que ces idéogrammes sont des choses extrêmement complexes, comment dire, dans lesquelles nous ne pouvons pas entrer. Spinoza, dans un texte, parle d'une langue universelle. Et il s'interroge, il dit, mais quel serait le système d'écriture le plus universel et le plus pratique et le plus facile pour unifier l'écriture, si tant est qu'il le fallait, unifier l'écriture. Et il nous dit que ce sont les idéogrammes chinois. Petit exemple. Vous savez comment on dit une querelle en chinois? Eh bien, on met deux fois l'idéogramme d'une femme. Et on sait que ça veut dire une querelle. Quand on veut dire la tendresse, on met l'idéogramme d'une femme et l'idéogramme d'un enfant. Et le sens, au fond, court comme une espèce de flamme au-dessus des idéogrammes. Nous sommes les auteurs du sens qui n'est fait qu'être évoqué par les idéogrammes. Et c'est nous qui l'ajoutons. En outre, j'ajoute, et il faut le savoir aussi, que les gens de Pékin ne comprennent pas les gens de Shanghai, par exemple. Tout le monde se comprend à partir des idéogrammes, mais les gens du Nord et ceux du Sud ne parlent pas la même langue. Les Ouïghours ont aussi une langue qui n'a rien à voir avec le chinois. Hein. Mais tout le monde se retrouve sur l'écriture. Tout le monde se retrouve dans les idéogrammes. Alors, c'est ça, au fond. C'est ça aussi, au fond, qui, au départ, m'a fasciné. C'est l'écriture chinoise. C'est l'écriture chinoise. Nous sommes, pour moitié, les auteurs de ce que nous lisons. Le sens est en nous. Hein. Voilà. Alors, de la même façon, le sens de mon roman, il est en nous. Comme l'écriture chinoise, c'est nous qui ajoutons l'essentiel. Raison de plus pour laquelle j'ai insisté sur le fait que ça n'était qu'au moment où on en a terminé la lecture qu'on commence en vérité à le lire.
Mais les grands écrivains français qui ont écrit sur la Chine ne sont pas absents de votre roman.
Non, bien sûr, j'ai pensé à Ségalène, j'ai pensé à Malraux. Mais vous savez,
Claudel aussi.
Oui, Claudel. Claudel qui était ambassadeur et d'ailleurs que j'évoque par une image. Il semble que Claudel ait une aventure amoureuse, passionnée, en Chine. Et alors j'ai fait apparaître, parce que, oui, la raison en est que mon héroïne est du département français de l'université de Bidaï. Elle parle français, elle est archéologue et elle parle le français. Peut-être trouverez-vous que c'est un artifice, c'est vrai, mais l'archéologie joue un rôle important dans le roman parce que, tout en détestant cette Chine, tout en réprouvant ce gouvernement et ce système chinois, ces gens sont profondément attachés à leur pays, profondément attachés. Li est retrouve dans ses recherches archéologiques quelque chose d'elle-même. Oui, j'en étais. Je vous disais que j'ai pensé à Claudel, j'ai pensé à Ségalène, bien sûr. J'ai pensé à Ségalène, peut-être moins à Malraux, peut-être moins Malraux. Vous savez, je crois que je suis le seul, avec toute révérence gardée, avec Simone de Beauvoir, à dénoncer Malraux. Je n'aime pas Malraux. On a parlé de la condition humaine, bien sûr, c'est son meilleur, peut-être avec le temps du mépris. Mais la psychologie de l'art n'est qu'une refonte d'Elifort et de Dutuy. Les chaînes qu'on abat, ce livre qu'il a écrit. Enfin, je trouve beaucoup d'enflure à ce personnage. Et chaque fois qu'on attaque Malraux, enfin, je me permets de dire cela, c'est un peu comme si j'attaquais la France. Non. Non. Mais enfin, la condition humaine est simplement le rapprochement et il a fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il a bâti sur un des événements historiques véridiques un récit. Hein.
Mais alors justement, puisque vous parlez de la condition humaine, il y a une grande question quand même qui traverse ce livre, Un printemps à Pékin. C'est la question pas facile de l'histoire avec un grand H. Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'elle en a plusieurs? On dirait le plus souvent qu'elle est imprévisible, illogique. Vous vous rappelez la phrase que j'ai citée en exergue de l'émission? Oui.
Écoutez, l'histoire ne se fait pas sans nous. Chacun d'entre nous fait l'histoire. Alors, l'histoire n'est pas à juger comme ça, dans une discussion au café du commerce. Nous sommes responsables, encore Sartre, nous sommes responsables de tout ce qui se passe. Moi, la Somalie, la Yougoslavie, la Chine, c'est moi. Nous sommes responsables. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas m'expliquer, je ne pourrais pas vous expliquer, mais je sens, d'une certaine façon, par quel cheminement bizarre, que cette responsabilité est agissante. Nous sommes tous comptables de tout ce qui se passe. Et c'est trop facile d'être là devant sa télévision et d'assister passivement à tout cela. Nous sommes responsables de tout cela. Et c'est ça aussi que j'ai voulu dire.
Vous avez recours, en ce qui concerne la Chine, une fois de plus, à la métaphore de la respiration.
Oui.
Vous dites qu'en Chine, on ne peut se représenter l'histoire que comme la respiration haletante d'un corps social qui ne sait pas très bien lui-même pourquoi il se survit.
Mais oui, parce que c'est le quart de l'humanité. Comment venir à bout, comment penser la Chine sans penser le monde quand on est chinois? Puisqu'ils sont le quart de l'humanité, ils sont si nombreux que penser à leur sort, c'est penser au sort du monde. Et c'est pour ça que, finalement, il y a là aussi, une métaphore supplémentaire. Enfin, disons que mon roman est une fusée composée de plusieurs métaphores emboîtées les unes dans les autres. Mais c'est la Chine qui veut ça. C'est précisément parce que la Chine nous offre toutes ces... toutes ces métaphores et tous ces sujets de réflexion. Penser la Chine, c'est penser le quart de l'humanité, donc le monde, donc le temps, donc l'espace. Et oui, alors vous me posiez la question de l'histoire. Oui, nous sommes responsables de tout ce qui se passe et continuellement responsables de tout ce qui se passe. D'une certaine façon, la défaite du socialisme, c'est ma faute. Je suis toujours socialiste, mais c'est ma faute. Je n'ai pas fait... quelque part, il y a eu quelque chose qui a manqué chez chacun d'entre nous. Et pour reconquérir justement cette... Car le socialisme n'est pas mort. Le socialisme est une vieille idée qui remonte à Jaurès. Et c'est pas parce qu'on a perdu une législature que le socialisme n'existe plus. Au contraire, d'une certaine façon. Je suis plus socialiste que jamais.
Mais hein? Non, on est en Chine ce soir.
Oui, mais ce contre quoi se battent les jeunes gens de Tiananmen, de l'université de Bidai, c'est la même chose. Il s'agit de l'oppression, il s'agit de lutter contre une injustice patente, flagrante, contre les emprisonnements, contre les milliers. Vous savez combien il y a de morts, on estime à 30 000 morts. Les gens qui sont morts à la faveur des événements de Tiananmen. Et il y en a combien encore en prison, on ne le sait pas. Wang Dan a été libéré il y a quelques semaines, mais il y en a encore des milliers enfermés, emprisonnés et souvent torturés. Alors, c'est la même cause.
Le livre de Jérôme Peignot, Un printemps à Pékin, est publié chez Kalman Levy dans la petite bibliothèque européenne du XXe siècle de Marensel. Du jour au lendemain, Arlette Adrian, Bernard Treton, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.